reste.
Non.
Oui, très bien.
C'est que...
Vous êtes les rescapés de l'hiver, de l'été. Alors, quelle joie d'être dans la présence de Dieu, d'être dans sa maison, de pouvoir le louer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce privilège. Et nous devons profiter de cette liberté qui nous reste encore pour parler de Christ, de briller pour lui et d'emmener des âmes à Christ pour l'éternité. Oui, ce matin, j'aimerais vous parler du témoignage et de son importance. Jésus a dit en Jean 8, « Je suis la lumière du monde. » Et il a vécu d'une telle façon que les gens pouvaient comprendre qu'avec lui, il y a la paix, il y a la joie, il y a la sécurité. Et après sa mort, le monde a décidé autrement. Et des religions ont dit, nous sommes la lumière du monde. Et puis, il y avait des philosophes qui disent non, nous sommes la lumière du monde. Et puis les scientifiques ont dit, non, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et puis enfin, il y a les politiciens qui disent, non, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et au lieu d'avoir cette paix, cette joie, cette sécurité que Christ a offert au monde, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a la guerre, on a les attentats, on a les meurtres de tous les côtés. L'homme n'a pas la solution à ce monde. Dieu a la solution, mais on ne se tourne pas vers lui. On veut être plus avancé, plus intelligent que Dieu lui-même. Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et c'est vrai. Et un jour, il va revenir. Et on va voir la différence quand il sera là avec ce qu'on voit aujourd'hui. À Matthieu 5, nous lisons, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Alors, à sa mort et après sa résurrection, Christ est revenu. Non pas visiblement, mais dans les chrétiens. À tel point que Paul, dans son épître, a dit, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Christ était le reflet de Dieu lui-même. D'ailleurs, il a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et nous, il faut que les gens disent de nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a vu le Christ. Est-ce que nous vivons de cette façon-là? Est-ce qu'on peut dire, après vous avoir vu, j'ai vu le Christ? C'est ça, c'est ce qu'on doit être, une lumière. Christ est à nous et il doit briller à travers nous, de plus en plus dans ce monde ténébreux, qui va devenir de plus en plus ténébreux. Je veux corriger quelque chose maintenant qui court le monde. Ça a commencé en Amérique, mais je crois que c'est maintenant en France également, et un peu en Allemagne et dans tous les pays de l'Ouest. Un pasteur, je ne sais pas qui c'était, a dit un jour, il y a deux façons de témoigner, par la bouche et par la vie. Oh là là, quel mensonge directement de Satan! Tout le monde a sauté là-dessus immédiatement. Et ils ont dit, et pour la preuve, c'est que quand j'étais en Amérique, j'ai entendu les uns après les autres dire, je ne parle pas, j'essaie de témoigner par ma vie. Mais quelle horreur! Jésus n'a jamais dit que de vivre, ça remplace le témoignage vécu par la bouche. Vous savez, il faut ouvrir la bouche. Il y avait deux hommes qui travaillaient dans le même bureau. Et l'un disait à l'autre un jour quelque chose. Après 10 ans, ils étaient dans le bureau. Ils se côtoyaient constamment. Et après 10 ans, l'un a dit un mot qui a laissé comprendre qu'il pouvait être un chrétien. Et l'autre a dit, es-tu sauvé? Ah oui, et toi? Mais oui, chacun voulait voir sa vie, montrer qu'il est chrétien. Mais on ne peut pas le faire si on n'ouvre pas la bouche. Parce que les gens peuvent dire, mais c'est un brave garçon, c'est une brave fille. Et les gens disent, oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais ils ne croient pas par la vie que vous avez accepté Christ dans votre cœur, que vous vous êtes repenti de vos péchés, que maintenant vous vivez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas deviner cela. On témoigne par la bouche et on le soutient par la vie. Je le répète. Ceci est de toute importance. On témoigne par la bouche, et on soutient son témoignage par la vie. La vie est bonne, il faut vivre. Mais après avoir ouvert la bouche, il faut dire aux gens que vous êtes sauvés. Quand j'amène des chrétiens américains au resto, je témoigne. Et l'autre jour, j'ai téléphoné à quelqu'un, et la dame m'a dit, « Oh, vous nous manquez. On aimait beaucoup aller avec vous au resto et vous entendre témoigner. Nous ne savons pas comment le faire. » Quand j'étais à l'Institut biblique, la Chine est devenue communiste. Les portes sont tombées et on ne pouvait plus entrer ni sortir. Les missionnaires pouvaient sortir rapidement, mais il fallait qu'ils s'en aillent immédiatement. Vous savez, ces missionnaires étaient brisés complètement. Qu'est-ce qui va devenir maintenant les chrétiens qu'on a laissés derrière? Ils ont chiffré dans leur esprit, ils ont calculé qu'ils ont laissé là entre 16 et 20 000 chrétiens. Mais qu'est-ce qui va... Ils seront torturés, ils seront persécutés, mais... Alors, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont demandé aux églises, priez pour les chrétiens de la Chine. Ils n'ont plus de témoignages, c'est fini. Nous sommes partis, on ne pouvait pas rester. 20 ou quelques années après, la porte était ouverte de nouveau. Les Chinois pouvaient sortir et les autres pouvaient entrer. Les premières entrées, les missionnaires qui les ont laissés. Quand ils sont arrivés, quelle surprise. Non, ils n'ont pas trouvé 16 ou 20 000 chrétiens. Ils ont trouvé entre 16, écoutez-moi bien, entre 16 et 20 millions de chrétiens. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont parlé de Christ à tout le monde. Ils ont vécu Christ. C'était des lumières. Et vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre, tout cela est illustré par ce qu'on appelle le tabernacle. Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle après le modèle qu'il a vu dans le ciel. Il y avait un homme, Hur, qui avait le talent d'exécuter et de faire exactement ce que Moïse a vu dans le ciel. Et le tabernacle parle. Oh, tout dans le tabernacle représente Christ. Même les couvertures du tabernacle. La première couverture, quand on entrait dans le lieu très saint, c'était tout blanc. Mais avec les choses brodées en or, fil d'or, c'était d'une beauté totale. Et sur cette couverture blanche qu'on voyait en entrée, il y avait une couverture noire au-dessus qui représente notre péché. Et au-dessus de ça, une couverture rouge qui représentait le sang de Christ pour nous. Et au-dessus de cela, une couverture verdâtre, quelque chose, un vert, mais pas un vert joli. Et ça, c'est Christ, il a dit, n'avait mis beauté pour attirer nos regards. Celui qui était toute beauté, la gloire même, est descendu, prend de la forme humaine, comme nous, passé presque inaperçu, le roi des rois, le prince des princes. Et maintenant, j'aimerais que Philippe vienne ici et j'aimerais que vous regardiez ce qu'il va lire. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à Exode 25 et vous allez lire à partir de 31. J'aimerais que vous regardiez et savoir si vous avez vu Christ là-dedans. Essayez de voir Christ dans ce passage. Merci.
Exode, chapitre 25, versets 31 à 40. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Avant que j'oublie, dimanche prochain, si Dieu le permet, je vais prêcher de nouveau. Et je vais prêcher sur le titre « Les chameaux arrivent ». Alors, un message à ne pas manquer, « Les chameaux arrivent ». Alors, le chandelier, c'est chef-d'œuvre. C'est Christ. Ça, c'est l'image de Christ lui-même. Et vous avez remarqué des différentes choses. C'était la seule lumière dans le lieu saint. Il n'y avait pas d'autre lumière. Christ est la seule lumière dans le monde. Il n'y a pas d'autre. Et cette lumière, c'est en nous. Et nous brillons. Ce chandelier était fait de l'or pur. Vous savez que les métaux dans la Bible ont une signification. Par exemple, l'argent, c'est le métal de la rédemption. Le cuivre, c'est l'image du jugement. Et ainsi de suite. Et l'or, c'est la marque de la divinité. Et Jésus-Christ était divin. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Et non seulement qu'il était d'or pur, il dort, mais d'or pur. Vous avez remarqué combien de fois ça dort pur chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corruption en lui. Il n'y avait pas le moindre péché en lui. Il a vécu 33 ans sans jamais penser une mauvaise pensée. Sans jamais dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il n'a jamais tenu une amertume contre quelqu'un. Il n'a jamais fait de son corps un seul péché. Il était l'agneau de Dieu, absolument sans tache. C'est pour cela qu'il a pu mourir pour nous. Et on voit tout cela en lui. Il y avait aussi un autre mot qui est revenu à plusieurs reprises. L'or battu. C'était d'une seule pièce. Il y avait ces branches-là, et puis il y avait les coupes. Le chandelier avait 7 coupes, 3 sur chaque branche, et puis l'un au milieu, donc 7. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit des 7 coupes. Le chandelier représente des églises, chacune une autre église. Les églises, c'est un témoignage dans le quartier, dans la communauté. Une église offre plus qu'une personne. Une personne peut dire, voilà, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, je sais que je vais au ciel, mais c'est qu'une seule personne. Mais quand il y a 40, 50, 1000 personnes et tous disent la même chose, ils montrent par leur vie qu'ils s'aiment, qu'il y a un amour, qu'il y a une unité. Mais quelle puissance elle est. Quand quelqu'un arrive dans une église comme ça, il est touché par la puissance de cette assemblée réunie, le témoignage de l'église vivante. Oh, que notre église soit toujours ça, que chacun de vous brille dans l'église, que ça soit une église où on s'aime, où on est unis. Il n'y a rien de différent. C'est une attraction pour les gens qui ne connaissent pas. Quand ils voient cet amour entre frères, ils disent, mais on ne trouve pas ça dans le monde. Il y a la haine, il y a la compétition, il y a toujours l'orgueil et tout ça. Mais de voir les gens qui préfèrent l'autre au-dessus de lui-même, qui s'aiment, vous savez, ça touche. C'est l'Église qui est là. Et puis, c'était l'or pur qui n'a pas péché. Voilà ce qu'on voit dans le chandelier. Mais il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. Le chandelier ne donnait aucune lumière. Et pourtant, c'était la seule lumière. Et vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était la seule lumière et ça ne donnait aucune lumière. Non, le chandelier ne donnait aucune lumière. C'était la mèche. La mèche qui donnait la lumière. La mèche était là dans les coupes. Il y avait les 7 coupes et la mèche était dans. Il y avait une mèche dans chaque coupe. Et on allumait la mèche et la. Le chandelier avait une valeur incomparable. L'eau pure. Mais vous savez, la mèche n'avait aucune valeur du tout. Vous savez ce que la mèche représente? Nous. Nous sommes les mèches qui donnent la lumière. Christ partage avec nous l'œuvre de la conversion du monde. Nous sommes la lumière qui brille dans le chandelier qui ne change jamais, le chandelier qui est là pour toujours. Mais la mèche, elle brûle et elle disparaît. Nous sommes ici pour un temps. On brûle et puis on part. Voilà notre rôle dans la vie. Et vous savez, mais c'est un rôle qui est merveilleux parce que nous brillons. C'est nous qui portons la flamme. C'est ça qui donne la lumière. Christ en nous. Et puis, on brûle. Il y a une autre chose qu'il faut que j'ajoute. Dans la coupe, il y avait de l'huile. Et quand on allumait la mèche, ce n'était pas la mèche qui brûlait totalement, un peu, mais pas beaucoup. C'était l'huile dans la mèche. Vous savez à quoi ça représente l'huile? C'est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit est celui qui parle à travers nous. Quand vous ouvrez la bouche pour Christ, vous n'êtes pas seul. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous. Peut-être vous n'êtes pas conscient de cela, mais il est là. Dès que vous ouvrez votre bouche, le Saint-Esprit est là pour parler. Oh, vous ne saurez pas le résultat tout de suite, mais peut-être c'est dans les années suivantes. Ce que vous avez dit n'a pas quitté la personne. Oh, vos paroles sont importantes. C'est pour ça qu'il faut parler. Il faut parler. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut dire ce que Christ a fait pour vous. Oui, c'était ça. Mais il y a des gens qui travaillent dans la chair. Ils ne prient pas, ils ne laissent pas le Saint-Esprit travailler en eux. Quand je suis arrivé à Paris, après avoir quitté la Tchécoslovaquie, il y avait un jeune homme qui m'a attiré. Il était extraordinaire. Il s'appelait Boris, de souche russe. Il parlait parfaitement le russe, parfaitement l'anglais et parfaitement le français. Et on l'a reconnu et on a demandé qu'il devienne le chef d'un mouvement qui s'appelait Jeunesse pour Christ. Et il était plus que le chef, il était le modèle, il était tout ce qu'on pouvait souhaiter. Un homme extraordinaire. J'aimais beaucoup aller chez lui, être avec lui, sa femme. Il est allé à telle force à travers la France qu'il a littéralement gagné la France entre ses deux mains. Ayant la France entre ses deux mains, les chrétiens de la France, je me comprends, il a décidé de louer les arènes de Nîmes. Personne n'a jamais osé faire quelque chose de semblable. Il y a 20 000 places là. Vous savez, j'étais là. Et il y avait 20 000 personnes là aussi. Et il était sur l'estrade, il y avait un jeune homme qui s'appelait Billy Graham, il était sur l'estrade, il y avait tous les grands hommes qui étaient sur l'estrade. Et Boris a dirigé le tout. Quelque temps après, quelque chose est arrivé. Et Boris était, on a dit, il était coupable. D'autres disent non, il n'était pas coupable. On le juge. De toute façon, on l'a soupçonné parce qu'il était tarni, parce que sa réputation était atteinte. Il a dit, je vous quitte. Il est parti pour l'Amérique. Il n'est jamais revenu. En Amérique, il a vendu des assurances. Il a mis tout son talent pour gagner de l'argent. Il est devenu un millionnaire avant de mourir. Mais il n'est jamais revenu. La mèche s'est brûlée sans l'huile et disparue. D'autres ont vécu avec le Seigneur pendant les années, des années, des années, des années. L'huile a brûlé. L'huile a brûlé. Que l'huile brûle chez vous, mais pas vous. Ce n'est pas vous que les gens veulent voir, ils veulent voir Christ. C'est quand vous travaillez avec le Saint-Esprit qu'ils voient Christ et que la flamme brûle. Oui, vous savez que le matin, le sacrificateur est venu et il avait une machette. Une machette, c'était un instrument, un ciseau qui taillait la mèche, mais attachait tout ça en or pur. Ça tombait dans un petit récipient pour ne pas salir le tabernacle, mais plus que ça, pour garder les cendres. Alors, en plus de ça, il y avait des vases d'or pur dans lequel on jetait les cendres. On ne les jetait pas d'or, on les jetait toujours dans les vases. Il a coupé ce qui a brûlé hier. Puis il a allumé ce qui doit brûler aujourd'hui. Maintenant, le message, c'est que la partie de la mèche qui a brûlé hier n'est que cendre aujourd'hui. Je le répète, la partie qui a brûlé si bien hier n'est que cendre aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier cela. Pendant des années, n'oubliez jamais, je n'ai jamais oublié ça quand j'ai appris. Vous savez que Billy Graham, avant qu'il soit très connu, il a commencé son ministère à Los Angeles, sous une tente. Il a décidé de rester là 4 semaines, prêchant tous les soirs. Mais à la fin des 4 semaines, les pasteurs sont venus à lui en disant, « Billy, reste encore. Je crois que Dieu nous réserve quelque chose. » Il a dit, « Non, je m'en vais. » Et ils ont plaidé. Finalement, il a dit, donc, d'accord, je reste. Le lendemain, la puissance de Dieu est descendue sur la tente et les gens commençaient à se convertir par des dizaines. Et ça, jour après jour, des gens sont venus et des dizaines chaque soir. Finalement, la campagne était terminée. Je ne sais pas combien de semaines après, on a démonté la tente. Et vous savez, il y avait une telle visite du Saint-Esprit que les gens, une fois que la tente était partie, ils sont venus se promener là où la tente était. C'était bien marqué, on savait où la tente était. Ils espéraient goûter encore la flamme. C'était des cendres qu'ils ont trouvées. On ne trouve pas de flamme le lendemain. On ne trouve que des cendres. Je suis allé un jour à l'église à Minneapolis. Il avait un moment de témoignage. Alors, le premier se lève, il a dit, « Je me rappelle, il y a 20 ans, je suis venu ici dans cette église et oh là là, et il y avait une telle puissance du Saint-Esprit que je me suis converti sur le champ. Oh là là, quel jour. Une dame se lève après. Ah, je me rappelle, il y a 20 ans. Je dis, 20 ans, c'est du cendre déjà. Oui, ils se rappelaient de ce qu'ils étaient. Peut-être un jour, vous aurez la tentation de vouloir être où vous étiez il y a 20 ans. C'est des cendres aujourd'hui. Dieu veut la flamme d'aujourd'hui, pas les cendres d'hier. Et le matin, quand vous vous levez, faites comme le sacrificateur, coupez les cendres d'hier et allume la mèche. Oh, retrouvez la même joie d'hier. Retrouvez ça avec Christ, avec la Bible, tout seul. Lisez la Bible, priez. Gardez la flamme, que la flamme brûle tous les jours. C'est ça, la vie. C'est ça qui tourne une nation de l'indifférence vers Christ. Il faut brûler tout le temps. ce qui a brûlé si bien hier, rappelez-vous, n'est que cendre aujourd'hui. Et oui. Et il a mis toutes ces cendres dans des vases. Et ça représente ce que Dieu fait. Il a des vases au ciel où il garde les cendres de votre travail. Chaque fois que vous témoignez, ça brûle. Il y a un peu de cendres qui reste. Chaque fois que vous priez pour des âmes pendant des longs temps, il y a des cendres qui tombent là-dedans. Et il va ouvrir des vases un jour. J'aimerais maintenant que vous venez avec moi à ce jour quand nous serons avec le Seigneur. Et c'est le jugement de Christ qui est dans la Bible. Et là, toi, tu t'es avancé petit à petit jusqu'à ce que tu es presque là. Il y a une personne devant toi. Et tu entends le Seigneur qui dit, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton salut. Oh, tu as été formidable. Je regarde ici dans le vase, c'est plein de cendres. Et j'ai suivi tout ce que tu as fait pour moi. Je te donne une couronne. Et maintenant, prends ta place à la tête de la table, près de moi là-bas. Et puis, c'est ton tour. Et tu arrives, il n'y a pas bien fait bon et fidèle serviteur, il n'y a rien. Le Seigneur va te regarder. Il a dit, je vais regarder le vase. Il regarde dans le vase, il n'y a pas de cendre. Il n'y a pas de cendre. Il te regarde, il a dit, tu sais, je t'ai aimé depuis toute l'éternité. Oh, combien je me suis réjoui quand tu étais sauvé. Tu me donnais ton cœur. Oh, combien ça m'a fait de joie. Je t'ai suivi. Mais tu sais ce que tu as fait. C'était quelques jours après. Tu as cessé de m'aimer comme ça. Tu t'es tourné vers le monde. Le monde t'a attiré et tu voulais être riche ou tu voulais t'amuser. De toute façon, tu ne trouvais plus le plaisir de venir à l'église. Tu ne lisais plus ta Bible. Je te regrette beaucoup, mais il n'y a pas de cendre. Ce que je peux te dire, c'est que je t'aime toujours, mais il n'y a pas de couronne pour toi. Maintenant, tout ce que je peux dire, tu peux partir et prendre ta place au fond là-bas avec les autres qui n'avaient pas de cendre. Et c'est pour l'éternité. À ce moment, tu vas tomber sur ton visage et tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Il ne te restera plus rien. Tu te lèveras et tu partiras comme ça. Pour l'éternité, tu n'as pas ouvert la bouche. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. J'espère qu'il n'y a personne ici. J'espère que je parle à personne ici. Hein. J'espère que vous avez tous vécu pour le Seigneur, témoigné, donné, sinon attention. Ce jour n'est pas loin. On sera bientôt avec le Seigneur. Ce que je suggère, c'est qu'à la fin de ce message, à la fin de cette réunion, ceux qui veulent prier, qui viennent ici devant et qui prient, « Seigneur, je ne veux pas avoir mon vase vide. Venez ici et priez avec les autres, tous ceux qui veulent, qui viennent ici après le cantique. » Mais d'abord, avant de terminer, il se peut qu'il y a quelqu'un ici qui ne serait même pas au ciel. Parce que tu n'as jamais accepté le Seigneur. Tu ne t'es jamais repenti de tes péchés. Tu as toujours vécu pour toi-même. Tu n'as pas Christ dans ton cœur. Tu ne peux pas dire je suis sauvé. Tu ne peux pas dire j'ai la vie éternelle parce que tu ne l'as pas encore. Mais après avoir entendu cela, vous avez dit, moi aussi je veux être au ciel. Moi aussi je veux être dans la joie. Je ne veux pas passer l'éternité avec Satan, avec les démons, avec tous ces gens qui haïssent les uns et les autres. Je veux être avec ceux qui s'aiment, avec ceux qui ont la joie, ceux qui ont la paix. Je veux être avec Jésus. Nous allons prier maintenant. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous n'êtes pas sûr de votre salut. Vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Mais ce matin, après avoir entendu le message, vous ne voulez pas continuer tel que vous êtes. Vous voulez avoir la certitude de votre salut, d'être sûr d'aller au ciel, d'avoir la paix dans le cœur. Je vous demande maintenant de lever votre main pendant qu'on est dans une attitude de prière. Levez votre main et dites, par la main levée, priez pour moi, j'aimerais avoir cette vie éternelle aussi. Levez la main, là où vous êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici sans Christ, sans cet espoir, sans cette certitude? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ô Seigneur, je te prie maintenant de nous bénir. Seigneur, mets ta main sur cette église. Seigneur, parle au cœur et montre aux gens où ils en sont, afin qu'ils aient le courage de prendre position avec toi et de vivre pour toi, d'ouvrir leur bouche et d'aller en avant, que nous soyons enflammés pour toi, car je te le demande au nom de Christ. Amen. Alors, on va